première quinzaine d'octobre, Maurice Papon fait la tournée de certains commissariats.
C'était l'époque des yéyés, et à Paris comme à Rager, le week-end c'est sur la piste que la jeunesse danse le twist. La mode est à la taille fine, les blousons noirs portent les jeans, rabat pas bleu et bigoudi, oh il t'a raté, stand by me. Un voyage autour de la terre, Gagarine s'envoie en l'air, bien que vous chantez son légionnaire, le savait-elle, le tortionnaire. Au cinéma des grands boulevards, Psychose et la tulipe noire sont à l'affiche ce mardi aux côtés de West Side Story. Ils se dirigent vers la ville, ils sont venus des bidonvilles, Saint-Denis, Gennevilliers, Nanterre. Enfants vieillards, famille entière dans leurs costumes du dimanche, souliers de cuir, chemise blanche. C'était le temps des colonies, et la nuit tombait sur Paris. C'était l'époque des yéyés, et à Paris comme à Alger. Le week-end c'est sur la piste que la jeunesse danse le twist. En quatre ailes on part en vacances, en plus tu gagnes le Tour de France. Les rockers draguent les lunettes, quelques aux bananes et vos flaquettes. Du 12 au 13 dans la nuit, à Berlin le mur est construit. Et cette année-là dans Paris, à l'Olympia chante Johnny. Catherine Deneuve devient blonde, jeune Jules et Gilles se jouent du monde. De Gaulle dirige la nation, Léon Ferré chante à wagon. Ils se dirigent vers la ville, ils sont venus des bidonvilles. Saint-Denis, Gennevilliers, Nanterre. Enfants, vieillards, famille entière, et par centaines et par milliers, ils sont venus manifester. C'est au couvre-feu de Papon que sans violence ils disent non. C'était l'époque des yéyés, la capitale est quadrillée, car l'Algérien c'est l'ennemi traqué dans les rues de Paris. Collé au mur dans le métro, main sur la tête ou dans le dos, ils disparaissent dans des cas, les gens détournent le regard. Et la police se déchaîne, les corps sont jetés à la scène. Dans la cour de la préfecture résonnent les cris des injures. À coups de crosse dans les dents, au milieu des gémissements, femmes traînées par les cheveux, éclats de rire et coups de feu. Ils se dirigent vers la ville, ils arrivaient des bidonvilles. Les morts se comptaient par centaines, les eaux muettes de la Seine les ont emportés dans la nuit, vers le silence, vers l'oubli. Longtemps après, qui se souvient, 17 octobre 61, c'était l'époque des yéyés.
Première quinzaine d'octobre, Maurice Papon.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous sommes bien sur Radio Galère pour une émission de Chroniques sans frontières version octobre 2011. Une émission qui a commencé un peu différemment aujourd'hui avec la chanson de la compagnie Jolie Môme, qui était une chanson qui a été faite en hommage au 17 octobre 1961. 17 octobre 1961 qui va être l'objet de l'émission que nous avons préparée aujourd'hui. Donc nous sommes aujourd'hui octobre 2011, 50 ans donc après cet événement dont on a un petit peu d'informations aujourd'hui, dont on sait un petit peu ce qui s'est passé, comment s'est passée cette manifestation, où sont passés les gens, que s'est-il passé. Peut-être alors quelques éléments de contexte avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet dans cette émission qui va durer donc une heure et au cours de laquelle on va donc dérouler un peu le fonctionnement de cette journée du 17 octobre 1961. Et puis c'est une émission qui va se passer en deux temps puisque nous allons réinstaurer à partir de ce mois-ci des chroniques Éducation sans frontières dans les chroniques sans frontières.
Cette fois-ci, pour l'instant, on va voir.
Chronique éducative qu'on commencera à partir de... Enfin, dans à peu près une grosse demi-heure. Voilà, donc 17 octobre 61, ce qu'il faut savoir, c'est que le 17 octobre 61 se situe dans la période de ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie, ce qu'on a mis beaucoup de temps à appeler guerre d'Algérie au lieu de l'appeler événement d'Algérie. Et qui a duré donc à partir de notamment 1954 où les premiers combats, heures ont commencé et où est apparu le nom du FLN jusqu'en 1962 avec la signature des accords d'Évian qui ont donné laissé l'indépendance à l'Algérie. L'Algérie a été colonisée, il faut savoir, à partir de 1830. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette conquête de l'Algérie ne s'est pas faite dans le grand, pour le plus grand bonheur des Algériens, dans l'allégresse, etc. Non, cette colonisation s'est faite avec la mise en place déjà à l'époque de ce qu'on a pu, de ce que certains historiens ont appelé une guerre totale ou une guerre anti-insurrectionnelle, avec des moyens comme l'enfumage de tribus entières. L'enfumage, c'est l'assassinat de personnes qu'on asphyxie, qui est des personnes qui s'étaient réfugiées dans des grottes. C'est aussi la mise en place des razzias, c'est-à-dire la démolition de villages entiers, le fait de brûler ces villages, de détruire totalement et systématiquement les récoltes pour soumettre les populations qui s'opposaient à la colonisation. Et puis la mise en place d'expropriations systématique et l'installation de colons armés dans le territoire de l'Algérie. Donc la colonisation de l'Algérie, elle s'est faite aussi, il faut le savoir, avec la bénédiction des grands hommes de la Troisième République, Victor Hugo, Alexis de Tocqueville, qui avait étudié la démocratie aux États-Unis. Donc c'était le prétexte de civiliser ces populations barbares, disait-on à l'époque. Voilà, la guerre d'Algérie, donc, je vous disais, a commencé en 54. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on commence à voir le souhait, apparaissent les premiers signes des souhaits d'indépendance de la population algérienne, notamment avec les événements de Sétif et Guelma, le 8 mai 45, qui était le jour de la fête de l'armistice franco-allemande, jour où le drapeau algérien a été brandi dans une manifestation, et ces journées se sont soldés par un bilan de 100 morts côté européen et 6 à 8 000 morts côté algérien. Voilà, c'était les prémices de la volonté d'indépendance qui ont été mis entre parenthèses jusqu'en 1954. Juste un dernier mot d'introduction pour dire que l'Algérie française fait partie pas forcément de notre malheureusement pas de l'histoire française, mais plutôt de l'amnésie collective française. On a très peu parlé de cette guerre, si on compare par exemple avec ce qui s'est passé aux États-Unis en termes de mémoire sur la guerre du Vietnam. Les États-Unis ont beaucoup réfléchi, beaucoup fait de films, etc. sur la guerre du Vietnam. La guerre d'Algérie restait quand même un sujet encore beaucoup oublié, peu évoqué, et elle fait partie, voilà, comme je disais, non pas de notre mémoire, mais de notre amnésie collective. Il est important aujourd'hui de reparler de cette période-là pour que tout le monde en France notamment puisse avoir une vision de cette histoire, que ce soit les descendants des combattants algériens, des enfants de harkis dont les parents avaient pensé faire le bon choix, des enfants des pieds noirs dont les parents quittaient parfois leur pays natal, également les enfants de tous ces appelés qui sont partis à la guerre de l'autre côté de la Méditerranée et dont certains sont revenus honteux et abasourdis, avec une sorte de guerre honteuse après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on va peut-être enchaîner tout de suite sur le 17 octobre 61 avec une explication du contexte par un historien qui s'appelle Monsieur Enaudi et qui a écrit pas mal de bouquins sur la question.
En France, donc, début septembre, fin août, début septembre 61, les attentats reprennent. les attentats du FLN reprennent en même temps donc que se durcit cette répression. Et des policiers sont tués. Il y en aura 11 de fin août jusqu'au début octobre 61. 11 à Paris et dans la région parisienne. Au sein de la police parisienne, et cela crée un choc profond. Cette police parisienne, depuis déjà de nombreuses années, elle est travaillée par des ferments disons, à caractère raciste. Je donnerai un seul exemple. Avant même la guerre d'Algérie, le 14 juillet 1953, à l'occasion d'une manifestation pacifique d'Algériens qui réclamaient la libération de leur leader, Messali Hadj, à la place de la Nation, des policiers ouvrirent le feu contre le cortège qui se dispersait. Il y avait eu 7 morts. Et il y avait eu des scènes de ratonnade, place de la Nation. De policiers accompagnés de bérets rouges d'ailleurs, qui avaient défilé le matin sur les Champs-Élysées. Ça, c'était en 1953, alors qu'il n'y avait pas de guerre en Algérie. En avril 1961, très officiellement, très publiquement, dans un leader policier.
Il y a des petits ratés dans les sons qu'on a passés.
Alors en fait, pour enchaîner, ce qui s'est passé au mois d'octobre 61, c'est qu'un arrêté préfectoral a été publié qui impose un couvre-feu aux Français musulmans. Un couvre-feu non seulement, mais aussi l'interdiction de se regrouper et l'obligation de circuler par... individuellement ou par tout petit groupe, une interdiction de rassemblement donc. Et pour réagir en réaction, en fait, ce qu'on appelait les Français musulmans d'Algérie se rassemblent. 30 000 personnes environ, des femmes et des hommes, se réunissent pour protester. Et des manifestations partent de plusieurs endroits de Paris. On va vous diffuser là le texte du couvre-feu remis en son.
Il est conseillé aux Algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les banlieues de Paris et les rues de Paris entre 20h30 et 5h du matin. Ceux qui, cependant, par leur travail, sont obligés de circuler pendant ces heures, pourront le faire grâce à une attestation temporaire que leur accordera, après enquête, l'assistance technique de leur carte. Enfin, les débits de boissons tenus par les Algériens doivent fermer désormais chaque jour à 10h.
Le conseiller de la façon le plus pressante aux travailleurs musulmans algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin.
Il est également vivement recommandé aux Français musulmans d'Algérie de circuler isolément.
À cet instant précis, un coup de sifflet strident couvrit le bruit de la circulation et la rumeur confuse qui s'élevait de la foule massée sur les trottoirs. Des centaines de musulmans disséminés dans les cafés, devant les étalages des magasins, dans les rues adjacentes au boulevard, répondirent au signal et envahirent la chaussée. En quelques minutes, la manifestation s'organisa. Des pancartes hâtivement confectionnées sortirent de dessous les manteaux. Plus loin, on déroula une banderole. Non au couvre-feu. Un groupe de femmes algériennes, revêtues de leur habit traditionnel, se porta en tête, lançant les cris persans que les Français connaissent sous le nom de youyou. Sans cesse de crier, elles agitaient leur foulard à fil doré au-dessus de leurs cheveux. D'autres manifestants qui attendaient dans les couloirs du métro rejoignaient les premiers. C'était maintenant plus d'un millier d'Algériens qui bloquaient le carrefour Bonne Nouvelle. Extrait d'un livre de Didier Deninx qui s'appelle « Meurtre pour mémoire ».
Et on continue sur le contexte avec la suite d'une interview de Jean-Luc Enaudi, historien, que nous avons allègrement pompé dans une émission de Là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Première quinzaine d'octobre, Maurice Papon fait la tournée de certains commissariats. Et là, son mot d'ordre, est clair, c'est vous serez couvert. Si vous tuez un Algérien, le patron qui viendra sur place aura tout ce qu'il faut sur lui pour que cela paraisse être un acte de légitime défense. Autrement dit, vous tuez un Algérien, le patron qui viendra aura sur lui un couteau qu'il mettra sur l'Algérien et ce sera de la légitime défense. C'est ce qu'il dit à ses hommes dans les commissariats. Et publiquement, lors des obsèques d'un policier, dans la cour de la préfecture de police, donc évidemment dans un climat extrêmement tendu, Maurice Papon a cette phrase « Pour un coup reçu, nous emporterons 10 ». Et cette phrase est comprise immédiatement comme « Pour un tué, tuons autant d'Algériens qu'on veut ».
Voilà, donc c'était la position officielle du préfet de police de l'époque. On n'a pas rappelé en introduction le fait que le préfet de police de l'époque, le 17 octobre 1961, c'était Maurice Papon. Maurice Papon qui est également célèbrement et tristement connu pour la rafle du Veldiv qu'il avait organisée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même lieu, même méthode, avec d'autres cibles. On peut maintenant faire un point, si vous voulez, sur ce que les médias ont dit à l'époque, avant de revenir aussi sur les événements en eux-mêmes.
Alors, quand on parle d'occultation des événements, effectivement, au niveau médiatique, il y a un détournement, en fait, de ce qui s'est passé. Je vais vous lire les titres du matin du 18 octobre 61. Dans le journal L'Aurore, on parle d'une masse hurlante et menaçante. Paris Presse cite « Ils ont pris le métro comme on prend le maquis ». Dans le Parisien Libéré, on parle de musulmans qui déferlent vers le centre de la capitale en multipliant les exactions et les cris hostiles. Dans Paris Jour, une masse narguant les pouvoirs publics. Et enfin, même dans Le Monde, on évoque plusieurs hommes en civil de type nord-africain qui s'enfuient armés de pistolets mitrailleurs.
Les musulmans étaient dans les rues de la capitale. Ils y étaient en foule, 20 à 25 000, semble-t-il, regroupés dans différents secteurs, suivant les mots d'ordre du FLN, pour manifester leur opposition aux mesures prises récemment par les autorités à leur encontre. Vous savez ce que sont ces mesures? Elles se traduisent pratiquement par l'impossibilité de circuler le soir. En tout cas, les cafés tenus par des musulmans doivent être fermés à 19h30. Hier donc, quelques premières manifestations en fin de matinée et dans l'après-midi ont lieu sur les grandes artères de Paris. Dans la soirée, un nœud important se forme vers le rond-point de la Défense, d'autres dans divers secteurs. Crise hostile, slogan FLN, voiture malmenée, retournée. Très vite, les heurts deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants. Les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Bilan, 2 tués et aussi un Européen, un Français originaire du Finistère et demeurant à Rouen, qui était on ne sait pourquoi à Paris. Il est mort à l'hôpital Cochin. 64 blessés hospitalisés parmi les musulmans. Une douzaine de représentants du service d'ordre, dont 2 brigadiers et un officier de police blessés également. Soulignant toutefois que personne dans le service d'ordre n'a été blessé par balle. Plus de 11 000 musulmans appréhendés et conduits au palais des sports ou au stade de Coubertin. Le préfet de police devait faire savoir cette nuit qu'une grande partie d'entre eux serait refoulée dès cette semaine sur la Gironde. Voilà où on en était au lever du jour.
Ce que ça évoque de la manière la plus...
Pardon, encore un enchaînement de plus.
Il était près de 8 heures. Sur les quais situés en contrebas du pont de Neuilly, deux immenses colonnes, formées par les habitants des bidonvilles de Nanterre, Argenteuil, Bezons, Courbevoie, se mirent en mouvement. Des responsables du FLN les encadraient et canalisaient les groupes qui ne cessaient de se joindre à eux. Ils étaient au moins 6 000. Les 4 voies du pont ne semblaient pas assez larges pour assurer l'écoulement du cortège. Ils dépassèrent la pointe de l'île de Puteaux sous leurs pieds et pénétrèrent dans Neuilly. Pas un ne portait d'armes. Le moindre couteau, la plus petite pierre dans la poche. Kemal et ses hommes contrôlaient les individus suspects. Ils avaient expulsé une demi-douzaine de gars qui rêvaient d'en découdre. Le but de la démonstration était clair. Obtenir la levée du couvre-feu imposé depuis une semaine aux seuls Français musulmans et du même coup prouver la représentativité du FLN en métropole. La voie était libre. Ils purent distinguer au loin l'arc de triomphe illuminé à l'occasion de la visite officielle du Shah d'Iran et de Farah Diba. Comme à leur habitude, les femmes prirent la tête. On voyait même des landaus entourés d'enfants qui pouvaient se douter que 300 mètres plus bas, masqués par la nuit, les attendait une escouade de gendarmes mobiles épaulés par une centaine de harkis. À 50 mètres, sans sommation, les mitraillettes lâchèrent leur pluie de balles. Omar, un jeune garçon de 15 ans, tomba le premier. La fusillade se poursuivit de trois quarts d'heure.
Donc là, on a une autre version de la manifestation et des exactions qui ont été commises que celle présentée officiellement par la radio. Vous aviez tout à l'heure les titres des journaux et de la radio le 17-18 octobre 61. La version que vient de nous lire, qui est tirée de nous lire Erwan et qui est tirée du livre de Dîner des Dingues, présente une version plus proche de la réalité.
Donc on avait, oui, officiellement deux morts. Dans les faits, on va voir un peu plus tard que les historiens parlent aujourd'hui d'environ 200 morts. Donc on était bien loin de l'histoire.
Il parle également à la radio d'un millier de déportations. Il y a eu 11 000 expulsions, enfin autour des 11 000 expulsions.
Voilà le témoignage de Claude Bourdet, qui était directeur de France Observateur à l'époque, et voilà ce qu'il en dit.
Ce que ça évoque de la manière la plus criante, c'est la visite que nous avons reçue à France Observateur quelques jours plus tard. Ça devait être le lendemain ou deux jours plus tard, d'un petit groupe de 3 à 4 policiers qui sont venus les yeux hors de la tête nous raconter ce qu'ils avaient vu. Et à ce moment-là, nous n'étions, comme tous les journaux, pas du tout au courant de tout ce qui s'était passé. Nous savions qu'il y avait eu des horreurs, mais nous ne savions pas jusqu'à quel point. Savoir que on avait massacré des Algériens manifestant pacifiquement, qu'on les avait massacrés jusque dans la cour de la préfecture de police, comme sont venus nous le dire, presque en pleurant, les policiers en question, ça, nous ne l'imaginions pas.
On parle d'événements qui datent.
Voilà, donc très bons enchaînements. Donc voilà ce qu'ont appris les journaux quelques jours après.
Soudain, l'énorme silhouette se mit en mouvement, accompagnée d'un long cri. Doucement d'abord et gagnant de la vitesse à chaque enjambée, il semblait que rien ne puisse l'arrêter dans son élan. Le martèlement des bottes sur les pavés renforçait ce sentiment de fatalité. Les CRS qui composaient la première ligne paraissaient gigantesques, gonflés par les gilets pare-balles glissés sous leurs manteaux de cuir. Les Algériens ne réagissaient pas, comme cloués sur place par la stupeur. On sentait un réel flottement dans leurs rangs. Il était déjà trop tard pour organiser la défense. Cette idée s'imposa à tous en un éclair. La foule reflua d'un bloc vers le Rex où se produisit le choc. Les crosses s'abattirent sur les têtes nues, mal protégées par les bras et les mains. Un policier jeta une femme à terre en la rouant de coups ou de galoches. Il lui asséna une volée de gifles et s'éloigna. Un autre frappait de toutes ses forces le ventre d'un jeune garçon, avec son bidule, si fort que le bois se rompit. Il continuait en se servant du morceau le plus acéré. Sa victime tendait les mains pour se protéger, essayant d'attraper le manche de bois. Il ne parvint bientôt plus à commander ses doigts brisés. Des détonations claquèrent devant la piscine Neptuna où stationnait un car. À l'intérieur, 3 agents visaient soigneusement les fuyards et ne rataient aucune cible. Une Ariane rouge et crème garée à moins de 20 mètres, derrière laquelle s'abritaient de nombreux musulmans, était criblé d'impact. Des gens couraient en tous sens en hurlant. Dans la panique, ils butaient contre les corps tombés aux terrasses des cafés, parmi les tables renversées, les verres brisés, les vêtements maculés de sang. Meurtre pour mémoire, Didier Denings.
Donc le bidule, c'est cet instrument, ce bâton qu'utilisaient les policiers à l'époque. Et ils avaient appris à s'en servir pour frapper très fort. Et il se trouve que le 17 octobre 1961, le bidule a permis de fracasser beaucoup de crânes et de faire énormément de morts. Ce qu'il faut savoir aussi sur les morts du 17 octobre 1961, c'est que parmi les manifestants, il y avait beaucoup de Kabyles, beaucoup de gens des montagnes qui ne savaient pas nager, et donc beaucoup de personnes qui ont été poussées à la Seine et qui se sont, qui ont été poussées volontairement et qui se sont noyées comme ça. Dans une interview de Jean-Luc Enaudi, donc cet historien raconte également que donc pour le 17 octobre 1961, Papon réquisitionne donc les bus de la RATP ainsi que les chauffeurs. On en a parlé tout à l'heure. Et ça n'avait pas été fait donc depuis 1942 et la rafle du Veldiv. Papon avait également interné au Veldiv en 1958 des Algériens également lors d'une manifestation. Donc le rapprochement avec la rafle du Veldiv ne l'avait pas effleuré plus que ça. En 1961, le Veldiv n'existe pas. Donc tous les manifestants qui sont emprisonnés sont regroupés au Palais des Sports.
D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Des gars des eaux pour les chants des humanzo. Déshumanisés, les basanés ne font pas de vieux os. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la.
Vous savez que plusieurs aussi des manifestants algériens arrêtés sont internés au nouveau Palais des Sports. Mais on dit à la préfecture de police que des dispositions sont envisagées pour libérer le plus vite possible le Palais des Sports, où il y aura demain soir un récital du musicien noir Ray Charles. Le maximum, dit-on à la préfecture de police, le maximum sera fait pour dégager la salle en temps utile, mais il est nécessaire de trouver de nouveaux locaux disponibles.
Bercé de tendre insouciance.
Plusieurs nuits durant, les forces de police sont restées en état d'alerte à Paris à la suite des manifestations auxquelles avaient pris part 20 000 musulmans algériens. En dépit du dispositif de surveillance de la police, les musulmans algériens n'avaient pas renoncé à continuer leurs manifestations. Tous les manifestants arrêtés le premier soir, il y en eut 11 500, ne devaient pas connaître le même sort. 1 500 en effet ont été refoulés vers l'Algérie dans leur gloire d'origine. C'est ainsi qu'à Orly, 144 d'entre eux ont été embarqués à destination de Constantin.
C'est quand même décourageant. Pauvre monsieur Papon qui essaie de faire entendre raison à ces abominables automobilistes qui viennent en voiture au salon de l'automobile regarder des automobiles qu'ils ne pourront pas se payer comme moi.
Et comme moi.
Eh ben oui.
Les conseillers de la façon le plus pressante aux travailleurs musulmans aux Algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin.
Il est également vivement recommandé aux Français musulmans d'Algérie de circuler isolément.
Donc pauvre monsieur Papon qui est obligé de raisonner ces automobilistes qui prennent tout le temps leur voiture. Quelle horreur. Pauvre préfet. On a encore un témoignage qui était le témoignage d'un prêtre à l'époque, enfin qui était séminariste à l'époque, qui s'appelle Gérard Grange et qui explique ce qui s'est passé, ce que lui a vu le 17 octobre 1961.
C'était le 18 octobre, donc, 61. Nous avions fait une journée normale au CISS, ça s'appelait Service d'instruction du service de santé des armées, à Vincennes, où l'on formait des infirmiers. Et le soir, vers 5h, notre gradé est venu nous demander, les séminaristes, de descendre dans la cour avec notre casque lourd et une tenue de combat. Nous sommes montés dans un camion, nous ne savions absolument pas où nous allions. Simplement, de manière un peu mystérieuse, on nous a dit, il y a quelque chose de très délicat, il faut les types sérieux, c'est très délicat. Et on est arrivé brutalement projeté, si vous voulez, d'une ville caserne toute simple, dans l'horreur. On a vu dans le grand amphithéâtre du rapport de Versailles, ce que j'ai appris à être des milliers, mais enfin, beaucoup de gens, d'hommes, essentiellement des hommes, africains, nord-africains. À ce moment-là, on a vu un capitaine, dont j'ignore toujours le nom d'ailleurs, qui était vert. Il est un séminariste, on a dit oui. Et Pommier et moi, nous avons été à à une espèce de petite fenêtre et nous avons vu le comité d'accueil dont parle Jean-Luc Enaudi, c'est-à-dire un autobus de la RATP dont sortaient des gens avec les mains sur la tête et une rangée de civils. D'ailleurs, je t'aimais à dire que c'était des gens en civil.
Des flics en civil.
J'ai appris ensuite que c'était des flics, je ne savais pas du tout à ce moment-là. Mm-hmm. Qui tabassaient. On s'a crié. Il y en a qui roulaient par terre. Et en général, on essayait d'atteindre la tête et puis les parties génitales. Mm-hmm. Mais là, c'était assez laid. Et le capitaine en question a dit, c'est un déshonneur pour la France. Et en rentrant à droite, il y a une pièce qui doit faire 15 mètres carrés, qui devait être prévue pour l'entretien. Et j'ai vu 9 types par terre, hein, morts.
Morts ?
Morts, ça c'est sûr.
Pourquoi vous en êtes sûr ?
Parce qu'il me l'a dit, le capitaine.
Voilà, donc un bout de cet extrait, on va réécouter un petit bout de la fin dans quelques instants. Donc on a quelques... Il y a beaucoup de témoignages qui apparaissent aussi dans les émissions de Daniel Mermet. Là, c'est vraiment qu'un tout petit bout. Je ne sais pas ce qu'il est carré. Alors, il est assez facile de trouver des témoignages de Français sur ces événements. On a eu plus de mal dans les archives à trouver des témoignages de Français musulmans d'Algérie, comme ils les appellent. C'est beaucoup plus délicat à trouver. Il faut savoir que sur Marseille, là j'en parlerai tout à l'heure, mais sur Marseille, il y a des actions qui vont être organisées en commémoration du 17 octobre 61 avec de la prise de son et de la recherche de témoignages de familles, de personnes qui ont été concernées par ces événements. Donc voilà la fin de l'interview.
D'accompagner des gens. Moi, par exemple, j'étais à un carré et je devais prendre un tel et les amener à une porte. Je ne savais pas ce qui se passait derrière la porte. Jusqu'à un moment donné où j'ai vu sortir les gens de cette porte. Et en particulier un, ça c'est extrêmement clair, dont on a dit qu'il avait 4 membres cassés, qui était dans un état épouvantable, il avait une plaie à la tête. Nous l'avons mis sur un brancard. Et nous l'avons porté sur une espèce de tente qu'on avait montée dans un des halls, qui était le hall infirmerie. Mm-hmm. Si vous voulez, ça a duré jusqu'au samedi soir, ça. Le samedi soir, moi je suis rentré crevé, et nous avons eu droit à une permission de soirée. Je suis à la porte de Montreuil, chez le frère de mon père, mon oncle, et j'ai raconté ça, très excité, vous voyez. Et à ce moment-là, mon oncle a mis la télévision, c'était le journal télévisé, et il m'a dit à la fin, mais enfin, imagine-toi, s'il y avait eu quelque chose, ça se saurait.
Peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir. À la face du peuple de la commune, les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire?
Et voilà, donc c'était un texte, une chanson des Têtes Raides sur un texte de Kateb Yassine. Donc un très 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 beau texte. Voilà, cette journée du 17 octobre. du 17 octobre 61, s'est soldé par 200 morts, 11 000 expulsions vers l'Algérie et par des années et des années de lutte pour obtenir une information sur la vérité.
Oui, et on va enchaîner avec cette information sur la vérité. Je crois qu'on a Thierry qui est en ligne là. Ah, oups. Tu nous entends Thierry? Allô Thierry?
Oui.
Oui.
Allô?
Oui, ça y est, on t'entend bien là, parfaitement.
C'est bon?
Oui, c'est bon. Ben salut.
Il y a un petit écho, ben salut.
Ouais. Alors, il y a peut-être un écho, tu écoutais l'émission peut-être en même temps?
Oui, oui, je suis en train de l'écouter.
Alors ouais, voilà, peut-être baisser le son de l'émission en même temps pour que
écoute,
ça ne fasse pas écho.
Voilà, c'est
voilà. Donc Thierry, t'as entendu les débuts, tout ce qu'on a raconté. Toi, t'es prof d'histoire en Indre-et-Loire, à côté de Tours.
Oui.
Et donc, on voulait parler un petit peu justement de l'approche qui en est faite de cette situation, de ces événements, vus sous la lorgnette éducation nationale.
Bah oui, bien sûr.
Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ça, toi?
Déjà, je crois que juste avant de parler un petit peu éducation nationale, pour qu'un événement comme celui-là puisse arriver, on va dire, jusque dans les classes, faut qu'on ait un certain nombre de sources d'informations. Et je crois que vous en avez montré quelques-unes. Moi, j'en rajouterai juste une ou deux. Dès novembre 61, François Maspero édite un petit bouquin de Paulette Péju, qui est une journaliste de Libération, qui s'appelle Ratonnade à Paris. Évidemment, ce bouquin est interdit, il circule sous le manteau. Et puis, il y a un photographe qui s'appelle Élie Kagan, qui va photographier toute la nuit, là où il peut, durant cette nuit du 17 octobre 61. Son bouquin a d'ailleurs été réédité chez Actes Sud. Donc, on a déjà un certain nombre de témoignages. Il y aura le film de Jacques Panigel après en 62 où il tourne dans le bidonville de Nanterre entre autres avec l'appui de la Fédération française du FLN pour recueillir un certain nombre de témoignages. Donc on a effectivement beaucoup de sources. Alors maintenant, pour que ça arrive jusqu'à l'éducation nationale, il faut probablement un certain temps. Et puis je dirais qu'il y a trois éléments en fait. Hein. Il y a déjà la question des programmes. Dans les programmes, aujourd'hui, et là je mélange, on va dire, collège et lycée, il n'y a aucune référence précise au 17 octobre 61. Sauf un petit manuel qui date de 99, de l'éditeur Bordas. Mmh. C'est un dossier sur les Français et la guerre d'Algérie, dans le cadre de la France depuis 44. Et là, on trouve dans ce dossier un petit texte, le témoignage d'un policier, donc qui est extrait d'un livre d'Anne Tristan qui s'intitule Le silence du fleuve. Peut-être que vous en avez parlé tout à l'heure. Le policier témoigne de ce qu'il a vu. Donc, alors lui, il a pas fait partie de la répression, mais bon, il rentrait chez lui, il a vu des Algériens couverts de sang qui rentraient dans le même quartier que lui. Alors juste la petite introduction du texte indique que des dizaines d'Algériens sont jetés à la Seine. Bon, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est pas des dizaines, les historiens tablent, on va dire, entre 200 et 400 morts, quoi. Donc au niveau des programmes, il n'y a rien.
Uniquement dans la Seine, ça.
Pardon ?
200, 400 morts uniquement dans la Seine.
Voilà, c'est ça. Bon, avec les destructions, enfin le massacre dont a parlé Jean-Luc Enaudi. Ensuite, on a les manuels scolaires. Donc là, les manuels scolaires. Après, ça dépend à la fois du courage peut-être et puis aussi de l'information des éditeurs et puis des auteurs des manuels. Rien n'empêche, même si ça apparaît pas officiellement dans une instruction officielle, rien n'empêche un auteur de manuel d'inclure, comme je viens de citer Bordas là par exemple, d'inclure dans un dossier, dans une chronologie, etc., d'inclure ce repère du 17 octobre 61, et puis de proposer un petit texte, une photo d'Élie Kagan, une référence, un témoignage, de manière à poser le problème. Et puis troisième point, il y a la liberté pédagogique des enseignants, quoi. Hein, même si c'est pas dans les programmes, même si c'est pas dans les manuels, rien n'empêche un enseignant qui s'informe de travailler là-dessus. Il ne sera pas réprimé s'il le fait. Encore faut-il en être informé. Et c'est vrai que l'information là-dessus, elle a mis beaucoup, beaucoup de temps à arriver quand même jusqu'à nous. Et à la fois, des, on va dire, aussi bien du côté français que du côté algérien. Hein. Juste un petit point, je vous parlais tout à l'heure du livre de Paulette Péjure, Ratonnade à Paris, donc qui sort en novembre 61, mais qui est interdit. Après les accords d'Évian, donc en 62, Maspero a l'intention de rééditer ce livre, et de, cette fois-ci, on va dire, d'essayer de le diffuser, on va dire, légalement. C'est le côté algérien qui va s'opposer en disant que c'est peut-être pas la peine de, etc., etc. Tout simplement parce que la Fédération française du FLN était plutôt, du côté des civils algériens, du GPRA notamment, gouvernement provisoire de la République algérienne, et là, on sentait déjà que c'était les militaires qui commencent à cette époque à prendre de plus en plus d'importance en Algérie pour aboutir au coup d'état de Boumédienne en 65. Donc, C'est un problème qui sera finalement complètement passé aux oubliettes. Il faudra attendre 81, émission d'Antenne 2, on est en octobre, donc quelques mois après l'élection de Mitterrand, pour que Marcel Tria, dont vous connaissez peut-être la qualité de journaliste et de reporter, fasse un petit doc là-dessus pour rappeler cet événement-là. Et puis ensuite, bon, quelques bouquins vont se succéder. Tu as parlé tout à l'heure, Erwan, tu citais le livre de, qui est un livre de fiction de Didier Deninck, mais on sait que c'est un auteur qui se documente beaucoup, Meurtre pour mémoire. Le bouquin qui va vraiment déclencher de nouvelles enquêtes, un rebondissement, etc., c'est le livre de Jean-Luc Enaudi, La bataille de Paris. Donc on a des infos, hein. Un enseignant qui veut traiter cette question, il a des infos, il a des témoignages, il a des photos, il a des extraits de films. Le film de Panigel, Octobre à Paris, par exemple, qui ressort en salle, là, à l'occasion du 17 octobre. Une petite fiction qui est pas trop mal, bon, il y aura des critiques à faire, mais bon, ça permet de travailler aussi, qui s'appelle Nuit Noire, qui est disponible en DVD. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut.
Et dans tout ce qu'il y a, est-ce que, alors toi, je sais que t'en parles, enfin, tu me l'as dit à côté, mais comment vous en discutez avec vos collègues, avec tes collègues d'histoire? Est-ce qu'ils en parlent vraiment? Est-ce qu'il y a un tabou encore là-dessus? Est-ce qu'ils ont peur par rapport à des situations de pression ou pas? Tu disais que c'est...
Non, il n'y a pas forcément peur. Moi, je pense qu'il y a plutôt un manque d'information. Bon, souvent les gens sont quand même, dans les programmes, dans le temps qui presse, dans etc etc. S'il faut lire 3-4 bouquins en plus, tu vois, sur un événement particulier, bon, ça peut se faire, mais ça va prendre du temps. Hein. Bon, c'est sûr que bon, les manuels on peut critiquer, on peut bien sûr. Hein. C'est vrai que quand c'est dans le manuel, les enseignants s'en saisissent peut-être davantage. Mais après, bon, voilà, ça dépend des auteurs de manuels, ça dépend de tout ça, quoi. Alors, par contre, ce qui a pu jouer, et peut-être ce qui peut jouer encore, c'est un petit peu le problème du tabou. Parce que quand on... Dans les programmes de l'éducation nationale, ça a un petit peu évolué avec les nouveaux programmes de lycée, là. Mais bon, tout ce qui touche à la Ve République, c'est tabou. La Ve République, elle arrive en 58, elle renverse une Quatrième République qui a tous les défauts. Hein, c'est bien connu. Elle, cette Ve République, elle est merveilleuse. L'homme qui la dirige va être absolument... ça a été le grand chef de la résistance, etc. Donc, il ne peut pas y avoir d'événements négatifs. Or, le 17 octobre 61, celui qui est en charge de la répression, c'est Papon. Bon, je vous fais pas la biographie de Papon, hein. C'est quand même le préfet de Gaulle. Roger Frey, qui est ministre de l'Intérieur, c'est un des fidèles de Gaulle. C'est directement le gaullisme, là. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien intituler un bouquin, 17 octobre 61, le gaullisme massacre, par exemple. Mais de Gaulle, le gaullisme, ça c'est encore un peu, bon, c'est pas intouchable, mais bon, hein, on est...
C'est encore l'esprit de la résistance. Beaucoup de
précautions qui sont prises autour de ça.
Oui, je te disais, c'est encore l'esprit de la résistance, quoi.
Oui, et puis au niveau, et là, ça, c'est une question de, ça pose des enjeux civiques aussi de cet événement. Hein. Ça veut dire que un État dit républicain, dit démocratique, se permet quand même de massacrer 400 personnes qui sont désarmées, parce que c'est ça aussi la question, c'est qu'au début dans la presse, c'est affrontement police FLN. Bon, en fait, c'est pas du tout un affrontement. Les Algériens sont désarmés, ils sont massacrés parce qu'ils ont les mains nues. Donc il n'y a pas du tout d'affrontement, hein. C'est un massacre en règle. C'est quand même la Ve République qui fait ça, quoi. Et les hommes de l'époque, les Roger Frey, les papons, compagnie, tout ça, c'est les hommes du gaullisme. Même si certains ont été récupérés de Vichy, mais bon, c'est les hommes du gaullisme. Et là, c'est un gros, gros, parmi d'autres, hein, on pourrait en faire une liste impressionnante, mais c'est un des gros points noirs de la période de Gaulle, quoi. Et c'est ça, je crois qu'il y a peut-être, s'il y a quelque chose qui a du mal à passer, c'est pas tellement la guerre d'Algérie, qui est plus du tout un tabou dans l'enseignement, hein. Elle est enseignée, elle est décortiquée, enfin, il y a un gros boulot aussi des historiens français, je pense à Benjamin Stora, mais il n'y a pas que lui, Raphaël Branche, etc. Donc il y a un gros boulot qui a été fait là-dessus, mais c'est peut-être tout ce qui touche à la période de Gaulle, qui est encore un peu,
Encore un peu tabou.
Oui, donc c'est plutôt cet événement-là au sein de la période de Gaulle que l'ensemble de la guerre d'Algérie, d'après toi. Tu penses qu'on parlait un peu plus de la guerre d'Algérie et que c'est plus évoqué.
Disons, si tu veux, ça peut c'est le 17 octobre, il peut être vu dans pas mal de parties de programme, en fait. Il peut être vu dans les Français pendant la guerre d'Algérie, les Français et la guerre d'Algérie, la France de la Ve République, la décolonisation, les mémoires de la guerre d'Algérie, puisque les mémoires de la guerre d'Algérie, ça fait partie maintenant des programmes de première. Il y a pas mal, en fait, de moments dans les programmes où cette journée-là, cette nuit-là, plutôt, peut être abordée. Hein. Oui. Franchement, c'est pas les occasions qui manquent, hein. Si on veut le faire, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire.
Et est-ce que cette année, à l'occasion du cinquantenaire, en fait, est-ce qu'il y a des actions éducatives spécifiques un peu prévues ou proposées ?
Alors écoute, personnellement, j'ai rien reçu. Je reçois des choses, beaucoup de choses. Là, je n'ai absolument rien reçu. Hein? Alors, attendons, on ne sait jamais. Il reste encore 12 jours, mais 12-13 jours. Enfin, mais bon, j'y crois pas trop, hein, mais bon. Oui.
Mais ça note quand même.
Disons qu'on fait plus facilement 3 minutes de silence pour certains événements internationaux que pour ça, quoi.
C'est clair. Mais je pense que ça renvoie quand même beaucoup. Tu disais les manuels ont une certaine liberté, chaque éditeur a une liberté, mais il y a quand même le programme qui est fait quand même par une volonté d'État et qui, lui, l'occulte. Alors même s'il y a la possibilité, une liberté pour chaque enseignant d'y aller, il y a quand même une volonté d'État de continuer à l'occulter, quoi.
Disons de une certaine, comment dire, une certaine prudence oui, probablement, hein. Mais en même temps, si tu veux, il n'y a pas d'interdiction, il y a suffisamment de cadres pour le faire. Alors c'est sûr que, bon, t'as raison sur ce point, hein, ça serait beaucoup plus clair si c'était très précisément défini et que ça soit par exemple une date repère de la Ve République ou que ça soit effectivement quelque chose de ça serait tout à fait clair. On le sait, c'est maintenant le problème des traites négrières et de l'esclavage est maintenant une partie intégrante, définie, clairement précise des programmes depuis l'école jusqu'au lycée. On peut imaginer que dans le cadre de la France et la guerre d'Algérie, cette date du 17 octobre 61 figure également comme un événement essentiel, quoi. C'est quand même depuis 45, dans toute l'Europe, c'est le plus grand massacre d'une population civile qui ait jamais existé, quand même. Mmh. Hein, c'est pas un événement annexe. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est assez considérable.
Vive la France, c'est ça ? Non, je veux. Ben, merci Thierry. On va en rester là avec toutes ces informations.
Bon, et puis, sinon que les auditeurs de Radio Galère vérifient bien dans les bonnes librairies. Hein. Il y a pas mal de choses qui vont être rééditées. Deninx, par exemple, va sortir une bande dessinée avec Benjamin Stora qui s'appelle Octobre Noir. Pour les gamins, je crois que Leïla Sebar aussi réédite son petit livre La scène était rouge, qui peut être lu par des ados, aux éditions Thierry Magnier. Et puis bon, il y a pas mal de docs qui vont sortir. Donc voilà, ce sera à surveiller dans les rayons des bonnes librairies, comme on dit.
Merci à toi.
De rien, longue vie à Radio Galère et puis bonne soirée à tous.
Merci ciao.
Merci.
Et bon courage.
Au revoir. Peut-être pour compléter la bibliographie et les livres qui sont aussi existants aujourd'hui, en plus de ce qu'a dit Thierry, il y a Octobre 61 de Jean-Luc Enaudi, il y a Olivier Lecourt Grand-Maison qui a fait un livre qui s'appelle également Le 17 octobre 61, un crime d'État à Paris. Il y a un collectif qui va sortir apparemment un livre également 17 octobre 61 par les textes de l'époque, donc où on retrouve notamment la arrêté qui met en place le couvre-feu. La bataille de Paris de Jean-Luc Einaudi, 17 octobre 61 par Paulette Péju. Voilà, et les livres qui ont été cités. Voilà, pas mal de films aussi qui ont été cités également. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale?
Juste ces jours-ci aussi sur le journal Mediapart, en accès libre, il y a tous les jours des publications littéraires sur le 17 octobre 61, des contributions d'auteurs.
Vous retrouverez Deninx d'ailleurs dessus aussi.
Ah d'accord. Ouais. Un petit bout de musique et on continue?
Ah oui.
Ah oui.
Notre-Dame est vierge, même si elle est à tout le monde et malgré son penchant pour les sièges. À l'heure où les gardes baillent, le bossu du parvis s'en va pisser sa nuit dans les grogues du diable. Alors pape les gargouilles sur les premières grenouilles, sentant de bénitier bien plus que leurs pieds qui ne fut jamais pris au pas de mauvais plis. Dans le rire refroidi, tombeau des vieilles filles, cachot de la vertu, pourtant pas de ciel en vue, surtout pas de septième pour ses corps en carême. Au cœur empaillé, au cul embastillé, à l'abri des bascules, et à leur grande âme, qui est toute minuscule, ne connaîtront jamais ni la grâce ni l'air, grâce matinée. Est-ce pendant que Paris, Paris sous, Paris, Paris, Paris sous, en dessous de tout, des saoules par-dessus les ponts. La Seine est jolie, ne serait-ce Morimont qui déshonore son lit, mais qu'elle traîne par le fond, inhumant dans l'oubli. Une Seine tuerie, c'est paraît-il légal. Les ordres sont les ordres, c'est Paris qui régale. Bras policières ordres, de coups et de sang ivre, qui eurent carte et nuit blanche, pour leur apprendre à vivre. À ces rats souches pas franches, qu'un sang impur et noir, à breton au caniveau, et on leur fit la peau, avant de perdre la mémoire. Des bandeurs enragés, aux fenêtres qu'on s'entende, et en passant soit dit, qui ne des mots acquiesce, que pourtant résonner, de la chaussée sanglante, jusque dans les Aurès, notre fils ensevelie, sous la froide chaux vive, d'une pire indifférence, accompagnée de vive, les boules caissées la France.
Voilà donc une chanson de La Tordue qui s'appelle Paris, octobre 61. Alors, pour faire une transition plus ou moins directe, on a parlé tout à l'heure de la réquisition de la RATP qui avait été faite par le préfet Papon pour transporter les Français musulmans d'Algérie. a assisté il y a un mois et demi à une autre forme de réquisition des tramways, en fait.
Donc inédite depuis 1961, apparemment.
Oui, il y avait déjà eu, il y avait eu des précédents en 2008. Le 31 août, c'est un camp de CRS débarque dans un campement en Seine-Saint-Denis où sont installés 150 Bulgares et Roumains. Et un peu plus tard, dans la matinée, les CRS forcent une centaine de personnes à se rendre à une station qui est proche de leur campement, la station Cosmonaute, sur la ligne 1 du tramway. Par groupe de 5 ou de 10, la police les fait entrer dans les rames avec des bagages, des vélos, des caddies, aux côtés d'autres usagers. Direction la gare RER de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Le nombre des, enfin, l'évacuation se déroulant avec difficulté, l'encadrement de la RATP décide de ne pas gêner les voyageurs qui sont dans les rames et décide donc de réquisitionner un tramway spécialement, une rame spécialement pour les familles, pour pouvoir transporter les familles. Donc ce tramway est réquisitionné et finira par quitter la station Cosmonaute dans la matinée, en fin de matinée.
C'est un tramway nommé Désir de Papon.
Un tramway, le tramway de la honte, comme le nomme la Ligue des droits de l'homme. Ouais. Qui va circuler pendant une quarantaine de minutes sous haute surveillance policière. Une dizaine de policiers et de CRS encadrent les Roms dans les wagons, en plus de 4 employés de la RATP, tandis que 9 quarts de CRS suivent le convoi sur l'ensemble du trajet. On ne sait jamais si jamais il y en a qui chercheraient, qui se perdraient. Et à chaque arrêt, des policiers se tiennent sur les quais pour empêcher les Roms de sortir, jusqu'à l'arrivée à Noisy-le-Sec, où les familles sont escortées jusque dans un RER en direction de Chelles ou de Tournan. Ensuite, où est-ce qu'elles sont allées? Est-ce qu'elles ont quitté le train en route? Elles sont retournées en Seine-Saint-Denis? Personne n'en sait rien. Et Médecins du Monde publie un communiqué le jour même en se disant inquiète de l'état de santé des populations. Des familles ont contacté l'organisation de Médecins du Monde pour avoir des nouvelles de leurs enfants mineurs dont ils ont été séparés avant l'entrée dans les tramways. Donc là, il s'agit clairement de déporter des gens à la... pour les faire sortir du département afin de les décourager. Des précisions sont apportées par des juristes qui disent que la police réquisitionnée par la préfecture avait pour ordre d'expulser les Roms d'un terrain et elle n'avait pas d'ordonnance d'expulsion du territoire, elle n'avait pas pour ordre de les acheminer vers un centre de rétention et les CRS auraient donc dû se contenter de laisser les personnes dans la rue. Et pas de les emmener vers des transports en commun hein, et de les escorter au cours de ces transports vers une destination qui n'a pas été choisie.
La RATP n'avait aucun ordre non plus, il me semble.
Non, non. Personne n'avait d'ordre, mais ils ont quand même été appliqués. D'après une juriste, d'après Claudia Charles, juriste au GISTI, la préfecture voulait faire du chiffre, évacuer un terrain squatté et s'assurer que les Roms n'aillent pas s'installer dans une commune voisine en les éloignant géographiquement. Donc elle souhaite montrer qu'elle lutte contre une délinquance théorique des Roms et en réalité elle déplace le problème. C'est vrai que sortir les gens du département, ça ne résout rien. Suite à ces événements... La CGT, Sud, différents syndicats ont publié des communiqués, ainsi que la Ligue des droits de l'homme qui s'insurge contre la traque inhumaine menée par l'État contre les plus précaires. Et Guéant stigmatise en fait les personnes qui protestent en disant que le fait de faire des analogies entre la réquisition de la RATP pour cette opération et celles qui ont eu lieu précédemment, que ce soit en 61 ou auparavant, lors de la Seconde Guerre mondiale, banalise la Shoah et encourage au négationnisme. Donc en gros, les militants, les syndicalistes, les activistes qui...
D'accord, donc c'est pas la police en embarquant des gens avec les mêmes méthodes que ce qui avait été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale qui incite à ça.
Non.
Non, non, d'accord.
C'est les protestants. Les protestantes. Voilà, donc petite transition par rapport à l'actualité. Alors sur les précédents, oui, en 2008, il y avait déjà un train qui avait été réquisitionné. Donc c'est pas la dernière opération ne date pas de 61, mais de 2008.
Malheureusement. D'accord. Est-ce qu'on fait un petit point agenda? Est-ce qu'on avait
Oui, juste une petite info avant avant l'agenda. À Marseille aussi, la semaine dernière, un énième camp de Rome a été démantelé. Bon, il n'y a pas eu de réquisition de la RTM, mais du SAMU social cette fois-ci, qui est venu distribuer des petits déjeuners avant d'embarquer les gens pour leur départ volontaire, pour ceux qui étaient OK pour partir volontairement. Et les autres, après avoir pris leur petit déjeuner, se sont retrouvés à la rue, dans le parc, un peu plus bas, sur le boulevard de Plombières.
Ouais. Après que leur petit baraquement ait été démoli.
Là, les bulldozers sont arrivés après le petit déjeuner pour démolir les cabanes. Tout ça a été sous haute surveillance policière.
Ils ont empêché la presse de bosser aussi, il me semble. Non,
alors une journaliste qui était sur les lieux avant même l'arrivée de la police a été sommée de quitter les lieux. Elle a refusé. Du coup, elle a été embarquée et puis placée en garde à vue pendant quelques heures.
Avec délicatesse.
Oui, elle a été embarquée délicatement. Il y a quatre flics qui l'ont saisie au niveau de l'entrejambe et pour l'emmener et la placer en garde à vue. Il y aura des suites vu qu'elle est convoquée le 8 octobre pour, on verra, un rappel à la loi. Ou on se demande à quelle loi et puis qui il faudrait rappeler à la loi dans ces cas-là.
Donc elle va être jugée pour insulte, c'est ça, je ne sais plus le terme exact.
Rébellion
et insulte à agent ou quelque chose comme ça, alors qu'elle était là pour faire son travail et voilà, et montrer ce qui se passe de misérable.
Agenda. Dans les prochains jours, le 5 octobre, mercredi après-midi, de 15h à 17h, permanence jeune majeur du réseau Éducation sans frontières à la Maison des droits de l'homme au cours Julien, comme tous les premiers mercredis du mois. Le 12 octobre, à partir de 19h, il y a une soirée de soutien au projet Boats for People, dont nous avions déjà parlé dans cette émission. Donc, le projet Boats for People, pour rappel, est un projet transnational en fait, qui regroupe des associations européennes et tunisiennes et d'Afrique du Nord. Et il s'agit de mettre en place une flottille pour dénoncer l'hécatombe qui a eu lieu en Méditerranée, qui a toujours lieu en Méditerranée. Il y a toujours des gens qui meurent en cherchant à fuir l'Afrique pour rejoindre l'Europe. Et aussi de faire une campagne pour la liberté de circulation. Donc soirée de soutien à ce projet à partir de 19h le mercredi 12 octobre à la Maison de Tunisie, 2 rue Gemap, c'est au coin avec le boulevard d'Athènes. Le 15 octobre à Emmaüs Saint-Marcel, au 46 boulevard de la Cartonnerie, festival des pratiques d'éducation populaire de 14 à 23h avec la présence de nombreuses associations. Le 19 octobre, réunion RESF à Mille-Babord à partir de 17h30. Et pour conclure sur cette émission qui concernait le 17 octobre 61, à Marseille aussi des événements vont être organisés pour commémorer le 17 octobre. Personnellement, je n'ai rien vu circuler en termes d'actions éducatives proposées par l'Éducation nationale, non plus dans la région. Mais d'autres événements s'organisent. Le dimanche 16, au Mobile, donc sur le haut de la Canebière, le kiosque à musique, dans l'après-midi et la soirée, une journée de commémoration aura lieu avec des projections, des diffusions sonores, un spectacle.
Un thé qui va être proposé aussi, je crois.
Un thé.
À la menthe.
Ben, j'espère.
De la soupe plus tard dans la soirée. Et surtout de la prise et de la diffusion de sons. C'est une soirée qui est une journée qui est co-organisée par Radio Galère aussi. Donc dans les prochains jours, chers auditeurs, vous allez voir débouler dans les rues de nombreuses personnes avec des enregistreurs en quête de sons et de témoignages sur cette époque du
Ce serait bien pour enrichir et pouvoir faire d'autres émissions, mais cette fois avec des témoignages de personnes et de ce qu'on appelait les Français musulmans d'Algérie, qu'on n'a pas trop entendu dans cette émission. Il y a aussi deux diffusions qui vont avoir lieu. Une diffusion par l'association Ancrage le 17 octobre, donc le lundi soir, à 19h. Alors l'association Ancrage va diffuser un documentaire qui s'appelle « Le silence du fleuve » de Mehdi Lalaoui. Il y aura un débat animé par Radouane Ben Grish. Donc ça se passe 42 boulevard d'Aman. Ou d'Anam, dans le 16e. Il y a une réservation obligatoire à faire, donc en appelant le 04 91 48 78 42, 04 91 48 78 42. Et également un petit peu plus loin, mais c'est vrai que c'est une des seules initiatives qu'on a vues pas très loin, c'est à Toulon, la LDH qui organise une projection et un débat autour du film « Ici, on noie les Algériens » 17 octobre 61 de Yasmina Hadi. Voilà donc pour les événements, les informations autour du 17 octobre 61.
Nous vous retrouvons dans un mois, le premier lundi de chaque mois, Chronique sans frontières, sur un thème surprise.
Un thème surprise. Merci à tous pour cette émission et à très bientôt.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.
Dame est vierge, même si elle est à tout le monde et malgré son penchant pour les sièges. Oh. À l'heure où les gardes baillent, le bossu du parvis s'en va pisser sa nuit dans les gogues du diable. Alors bave les gargouilles sur les premières grenouilles, sentant de bénitier bien plus que leur pied qui ne fut jamais pris au pas de mauvais plis. Dans le rire refroidi, tombeau des vieilles filles, la chaude la vertu, pourtant pas de ciel en vue, surtout pas de septième pour ces corps en carême. Au cœur empaillé, au cul embastillé, à l'abri des bascules, et à leur grande âme, qui est toute minuscule, ne connaîtront jamais ni la grâce ni l'air, grâce matinée. Est-ce moins que Paris, Paris sous, Paris, Paris, Paris sous, en dessous de tout, des saoules par-dessus les ponts. La Seine est jolie, ne serait-ce Morimont qui déshonore son lit, mais qu'elle traîne par le fond, inhumant dans l'oubli. Une Seine tuerie, c'est paraît-il légal. Les ordres sont les ordres, c'est Paris qui régale. Bras policières horde de coups et de sang ivre, qui eurent capté nuit blanche pour leur apprendre à vivre. À ces rats de souches pas franches, d'un sang impur et noir, abreuvent nos caniveaux, et on leur fit la peau avant de perdre la mémoire. Les bandits enragés, aux fenêtres qu'on s'entende, et en passant soit dit, qui ne dit mot acquiesce, furent pourtant résonner de la chaussée sanglante, jusque dans les Aurès, leur prison ensevelie, sous la froide chaux vive, d'une pire indifférence, accompagnée de vives, les boules caissées la France. Je ne tirerai pas, moi sans doute aujourd'hui, que l'histoire ne s'enraye sous le ciel de Paris.
est conseillé aux Algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les banlieues de Paris et les rues de Paris entre 20h30 et 5h du matin. Ceux qui, cependant, par leur travail, sont obligés de circuler pendant ces heures, pourront le faire grâce à une attestation temporaire que leur accordera, après enquête, l'assistance technique de leur casque. Enfin, les débits de boissons tenus par les Algériens doivent fermer désormais chaque jour à 10h.
Le conseiller de la façon le plus pressante aux travailleurs musulmans algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin.
Oui, il est également vivement recommandé aux Français musulmans d'Algérie de circuler isolément.
Chemise blanche, c'était le temps des colonies, et la nuit tombait sur Paris. C'était l'époque des yéyés, et à Paris comme à Alger. Le week-end, c'est sur la piste que la jeunesse danse le twist. En quatre ailes, on part en vacances, en culte, il gagne le Tour de France. Les rockers draguent les lunettes, têtes aux bananes et aux flaquettes. Du 12 au 13 dans la nuit, à Berlin, le mur est construit. Et cette année-là, dans Paris, à l'Olympia, chante Johnny. Catherine Deneuve devient blonde. Jeanne Jules et Jean se jouent du monde. De Gaulle dirige la nation, Léon Péré chante Aragon. Ils se dirigent vers la ville. Ils sont venus des bidonvilles. Saint-Denis, Gennevilliers, Nanterre. Enfants, vieillards, familles entières, et par centaines et par milliers, ils sont venus manifester. C'est au couvre-feu de Papon que sans violence ils disaient non. C'était l'époque des yéyés, la capitale est quadrillée, car l'Algérien c'est l'ennemi traqué dans les rues de Paris. Collé au mur dans le métro, main sur la tête ou dans le dos, ils disparaissent dans les cars, les gens détournent le regard. Et la police se déchaîne, les corps sont jetés à la scène. Dans la cour de la préfecture résonnent les cris des injures. À coups de crosse dans les dents, au milieu des gémissements, femmes traînées par les cheveux, éclats de rire et coups de feu. Ils se dirigent vers la ville, ils arrivaient des bidonvilles. Les morts se comptaient par centaines. Les eaux muettes de la Seine les ont emportés dans la nuit, vers le silence, vers l'oubli. Longtemps après, qui se souvient, 17 octobre 61, c'était l'époque des yéyés.